soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's
one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
La voix de l'Amérique, émettant depuis Washington DC, Eric Manirakiza avec vous au micro. Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous. Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Et ce soir, nous parlons de perspectives économiques en Afrique face à l'impact du changement climatique. Le 27 juillet dernier, le panel organisé par Atlantic Council, ici aux États-Unis, s'est penché sur les perspectives économiques en Afrique 2022 qui plaide en faveur d'un agenda africain à la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat prévue en novembre prochain en Égypte. L'économiste en chef et vice-président par intérim de la BAD, Kevin Orama, a présenté l'édition 2022 de perspectives économiques en Afrique à des leaders d'opinion internationaux et à d'autres organismes ciblés. Le rapport de la BAD met en lumière la menace croissante que fait peser le changement climatique sur les vies et les moyens de subsistance en Afrique. Comment donc soutenir la résilience climatique et une transition énergétique juste en Afrique? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue dans l'Amérique et vous. Notre première invitée est Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Bonsoir.
Bonsoir.
À Bamako, au Mali, Yuba Sokona, le vice-président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC en sigle, qui travaille sur les énergies renouvelables. Bonsoir.
Bonsoir.
Je commence avec vous, Ramayad. Pourquoi cet intérêt de Atlantic Council à l'Afrique et au changement climatique?
Bon, l'intérêt d'Atlantic Council à l'Afrique est quelque chose de tout à fait normal et ancien, puisque Africa Center est le premier centre régional d'Atlantic Council, créé en 2010 par l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, le général Jim Jones, en 2010 donc. Et donc moi j'en suis le troisième directeur depuis l'année dernière, avec l'ambition de changer le narratif sur l'Afrique à Washington, mais aussi de montrer que c'est une terre d'opportunités, d'investissement, et puis enfin de mieux connecter le continent africain au réseau de décisions mondiaux. Voilà. Et donc le climat devait naturellement faire partie de nos priorités parce que c'est un enjeu fondamental. L'Afrique, c'est 15% de la population mondiale, mais elle ne contribue qu'à moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Et pourtant, c'est elle qui en subit les conséquences les plus dramatiques en termes de déforestation, en termes d'inondation, en termes de dégâts considérables, sachant que en plus la communauté internationale, comme on dit entre guillemets, si elle existe, avait pris des engagements financiers toujours pas tenus lors de la dernière COP 26 à Glasgow. Non seulement les Africains n'ont pas eu satisfaction par rapport à ces engagements, mais en plus de cela, certains n'ont même pas pu participer. En tout cas, au départ, ils étaient mis sur liste rouge à cause du Covid. Ce qui est quand même aberrant de faire ces COP sans les Africains. Donc, on a voulu effectivement lancer un programme pour promouvoir une vision africaine du climat et en ayant en ligne de mire la première étape, la COP 27, qui cette fois se passera sur le continent africain, en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Espérons donc que la voix africaine ne sera pas zappée et que les engagements, les engagements seront tenus. Pour l'instant, on ne va pas sur cette voie, encore une fois, mais en tout cas, nous, en tant qu'Atlantic Council, nous faisons tout ce qu'il faut pour pousser en ce sens. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons développé ce programme, nous avons mis en place un groupe de travail qui surveille l'évolution des discussions jusqu'à la COP. Et puis et parmi ces rendez-vous importants, eh bien il y a eu ce lancement de notre groupe de travail sur le climat en avril dernier avec le vice-président du Nigeria et puis le président de la BAD, Akinwumi Adesina, et puis le 27 juillet dernier, comme vous l'avez dit, le chef économiste de la Banque africaine de développement s'est déplacé à Washington avec son bureau pour nous présenter son African Economic Outlook 2022, un rapport sur la vision du climat par la BAD. Voilà.
Et que faut-il retenir de ce rapport de la BAD? Je pense à l'état des lieux. Est-ce que l'Afrique baigne dans un océan de misère?
Non, on ne peut pas dire ça. L'Afrique est bien sûr confrontée à la pauvreté, mais de plus en plus de pays rejoignent la catégorie supérieure en termes de revenus, même si le Covid a eu des conséquences et a ralenti un peu le processus. Mais l'Afrique, clairement, est confrontée aux conséquences sévères du réchauffement climatique. Et là, le rapport l'a bien souligné en termes de diagnostic, hein, puisque le professeur Ourama, donc, qui est chef économiste de la BAD, a expliqué vouloir, à travers cette publication, élever le niveau de prise de conscience à propos des effets dévastateurs du changement climatique sur le continent, l'urgence d'identifier des instruments financiers innovants pour répondre à ces vulnérabilités climatiques et favoriser la transition d'ici 2050. Nous-mêmes, nous avions l'année dernière, par le biais d'Émilie Bell, notre chercheuse sur cette question-là, publié un rapport sur spécifiquement les instruments de financement en matière climatique, parce que nous partons de l'idée qu'on ne peut pas compter que sur la, entre guillemets, communauté internationale, comme je disais tout à l'heure, et qu'il faut donc qu'en Afrique, on développe des instruments financiers spécifiques. Et donc le rapport d'Émilie Bell l'explique très bien, on peut le trouver d'ailleurs sur le site de notre organisation.
Yuba Sokona, la crise climatique est réelle, la Corne de l'Afrique est un exemple évident. Que pensez-vous de ce rapport de la BAD? Est-ce que la problématique est vue de la même manière au niveau du GIEC?
En contenu, ça va dans le bon sens. Et il faudrait comprendre également que le GIEC fait une analyse des publications scientifiques sur les différents aspects du changement climatique, de la science du climat aux aspects socio-économiques, impact et autres. Nous n'entreprenons pas d'études spécifiques. Ceci dit, le problème, c'est un problème permanent qui vient amplifier un certain nombre de préoccupations et de problèmes en Afrique, parce que l'Afrique est située en basse altitude et les activités dominantes étant l'agriculture et l'élevage sont sensibles aux problèmes de variabilité climatique, du coup, de changement climatique. Ce qu'il faudrait retenir, il me semble que beaucoup moins avoir l'entrée du changement climatique dans le contexte africain, il faut plutôt avoir l'entrée du développement. C'est-à-dire on est dans la phase initiale de mise en place, de définir et puis de renforcer nos programmes et perspectives de développement dans les différents secteurs. Parce que l'Afrique a construit actuellement son système énergétique qui n'est pas en place. Développer son système agricole qui n'est pas entièrement en place. Et le définir et construire les différentes infrastructures donc, qui sont en progression, et qui est évident qu'un des problèmes évoqués par Mme Yann, la question de financement est essentielle et fondamentale. Mais même si on laisse tomber la question du financement, nous avons notre programme de développement. Chacun des pays africains a son programme de développement. On le veut ou non, qu'il y ait climat ou pas, qu'il y ait changement climatique ou pas, les pays, les États, les populations, ils feront leur mieux, de leur mieux pour essayer de mettre ça en œuvre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait que ceci soit compatible avec la contrainte climatique. Et ceci nous donne une opportunité de repenser, de revisiter nos programmes et puis nos perspectives de développement. Un des aspects les plus importants de mon point de vue, c'est qu'on ne voit pas un narratif clair sur la question du climat de l'Afrique et de l'Afrique et des différents pays africains. Ensuite, on a tendance également à penser, quand on dit Afrique, on a l'impression que c'est un village. Et c'est une diversité de situations économiques, de situations politiques, de situations culturelles, de situations sociales, même si il y a un certain nombre d'éléments qui, comme la plupart des pays africains, c'est-à-dire le système énergétique d'un pays continental, comme le Mali, comme le Burkina Faso, qui ne dispose pas de pétrole, qui n'a pas débouché sur la mer et qui a l'accès à l'électricité relativement limité, et un pays comme, par exemple, le Sénégal, qui dispose à l'heure actuelle de découvertes de pétrole, de gaz, ou du Ghana, ou de l'Éthiopie, ou de l'Afrique du Sud, est totalement contrasté et diversifié. Il ne partait pas avec les mêmes bases. Ceci est assez important de prendre conscience de cela et que ce narratif-là sur la question du climat soit beaucoup plus adossé au narratif du développement du continent.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Ramayad, là-bas, destine une perte de 5 à 15% de croissance du PIB, le produit intérieur brut par habitant en Afrique à cause du changement climatique. C'est un défi réel. Monsieur Sokoda parle de changement de méthode. Donc, relever ce défi, il faut réinventer le business qui va occasionner des pertes aussi.
Oui, effectivement, juste quelques mots au sujet du contenu du rapport. Il le dit clairement en termes de diagnostic, professeur Arama, c'est qu'on perd de la croissance, on perd des capacités de développement en Afrique à cause du changement climatique, 5 à 15%. Et au fond, au milieu des problèmes que sont ces problèmes de changement climatique et d'autres, eh bien, il dit qu'il y a des possibilités, des opportunités d'innovation, mais qu'il faut voir grand. C'est-à-dire, on vient d'aborder la question du financement des projets gaziers pétroliers africains. Sur le gaz notamment, il plaide dans ce rapport pour que le gaz soit utilisé comme énergie de transition, expliquant que chaque région du monde qui a réussi à faire la transition a utilisé le gaz naturel comme carburant de transition. Et donc, il explique que l'Afrique est le continent le moins intensif en carbone, et ce qui va permettre à la région de tirer parti des ressources en gaz naturel de manière responsable et créative pour un développement qui soit transformateur. L'Union européenne qui il y a encore quelques semaines, le début juillet, a accepté de labelliser le gaz et même le nucléaire, de lui donner le label vert, donc en le classifiant comme énergie de transition. Donc voilà, ça c'est parce que je crois qu'il y a cette prise de conscience-là par rapport au gaz comme potentielle énergie de transition dans un continent comme l'Afrique qui en a besoin pour l'électricité.
Monsieur Sokoda, je
crois qu'on ne peut pas classifier le gaz comme énergie propre parce que ça émet des gaz à effet de serre. Ceci dit, je crois qu'il faut aborder la question avec lucidité et dépassionnement. Parce que fondamentalement, l'Afrique a besoin d'énergie pour se développer. Toute l'Afrique subsaharienne connaît un problème de déficit d'offre d'électricité, de production d'électricité. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence également. Vous avez dit qu'il y a une croissance de 6% ou au-delà. L'essentiel de la croissance, c'est l'exploitation des produits naturels, c'est pas de la consommation. Et tant qu'on n'aborde pas la question fondamentale de l'énergie, l'industrialisation du continent est fort clos. Or, avec le développement à l'heure actuelle des énergies renouvelables, on peut faire énormément de choses, notamment surtout la production agricole. En revanche, ça ne peut pas du tout soutenir le développement industriel, la transformation industrielle de l'Afrique, de passer d'exportation de ressources naturelles à manufacturer des produits ici en Afrique, à industrialiser le continent. Ça, c'est une évidence. Il faudrait également qu'on ait une vision lucide de où va le monde. Et quand on regarde où va le monde est en train d'évoluer vers l'électrification de l'économie, l'électrification et la digitalisation de l'économie. C'est-à-dire dans les 10-15 années à venir, on va avoir une état de voiture. On rentrera de plein pied dans la digitalisation. Est-ce que l'Afrique va investir dans le futur ou on investit dans le passé? Parce que on risque d'être confronté à un problème de ce qu'on appelle actif dévalué. C'est-à-dire, on a une ressource qui ne sert pas à grand-chose. Comment utiliser le gaz naturel à l'heure actuelle en Afrique? Export, production d'électricité. Il y a très peu dans les autres parties de l'économie. Et si on veut développer l'infrastructure d'utilisation du gaz, ça demande du temps. Ça demande un investissement sur 15-20 ans. Est-ce qu'on peut attendre 15-20 ans? Est-ce que le système global ne va pas changer? Je pense qu'on a besoin d'avoir, d'analyser le problème de manière beaucoup plus lucide et de cerner les pros et les cons au lieu de s'investir dans un débat qui est quelque peu passionné.
Oui, l'administrateur adjoint pour l'Afrique à l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, a indiqué que les États-Unis vont veiller à ce que les partenaires africains aient la capacité et les ressources nécessaires pour asseoir les bases d'une économie durable et à faible émission de carbone qui fournisse suffisamment d'énergie pour la croissance. Monsieur Sokona, est-ce que c'est suffisant pour régler nos problèmes climatiques?
Le problème, ce n'est pas tellement ceci. C'est un discours que nous avons entendu depuis des années. Ça n'a pas commencé maintenant. On mettra à la disposition. Mais il faudrait que les Africains prennent la responsabilité, comme je l'ai dit, de définir leur propre narratif et qu'ils s'investissent là-dessus.
L'économiste en chef par intérim de la BAD a appelé à la coordination des politiques et à une approche plus holistique de la lutte contre le changement climatique en amont de la COP27. Ramayad, ça répond à cette préoccupation de Yuba Sokona.
Oui, tout à fait. Bon, maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà des mots. Et de ce que je vois, c'est toujours positif, évidemment, quand des partenaires bilatéraux, multilatéraux, ou des donneurs, même individuels. Alors, regardez le geste de Bezos par rapport à la grande muraille verte. Et on avait Andrew Scheer, qui est le CEO de Bezos Earth Fund, dans ce panel que vous évoquez avec la BAD. Donc tout ceci est bon à prendre. Mais je pense que les pays occidentaux ont eux-mêmes des défis à relever au niveau interne par rapport à ces questions-là. Vous voyez bien, et même des défis géopolitiques. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec la Chine qui a suspendu sa coopération sur le changement climatique avec les États-Unis à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Donc, est-ce que l'Afrique doit être ainsi ballottée au gré des problèmes domestiques de ces États, voire électoraux ou plus largement géopolitiques comme on l'a vu aujourd'hui? Je ne crois pas. Et je crois vraiment que le continent africain peut se prévaloir d'être non pas attentiste, comme ce type de posture le commanderait, mais plutôt d'être actrice de sa propre destinée. C'est-à-dire que les États africains ont quand même de quoi tenir le choc en termes de réponse, puisque c'est un continent qui a des potentiels énergétiques renouvelables qui est très important, et donc avec cette capacité à combiner industrialisation et croissance décarbonée. C'est 7 des 10 pays les plus, qui ont le plus de capacité solaire dans le monde sont en Afrique. Donc, en termes de capacité d'énergie solaire, c'est important. En termes de puissance hydro, les capacités sont aussi à 15% sur le continent africain. Mais comme je disais tout à l'heure, bon, il y a 600 millions d'Africains qui ont besoin d'électricité. Et là, les promesses de la communauté internationale ne peuvent pas suffire. Donc là, je crois qu'il faut travailler sur ces énergies renouvelables économiquement viables. C'est important, l'économiquement viable. Hein. On n'est pas dans la théorie ici, on est dans la survie des hommes et des femmes et dans la dignité humaine aussi. Parce que la résistance africaine, c'est sympathique, elle est douée de partout, mais les Africains ne peuvent plus supporter autant de difficultés. Ce n'est plus possible. Et je crois vraiment qu'il faut soulager. Et c'est la raison pour laquelle nous avions travaillé sur ce rapport l'année dernière qui disait, voilà, il faut qu'on travaille sur des investissements financiers nouveaux, verts, du secteur privé aussi, utiliser des nouveaux instruments tels que les obligations vertes ou les PPP, en mobilisant les investisseurs locaux intéressés par les projets verts. On avait aussi parlé de travailler avec les régulateurs nationaux. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, le Kenya sont des bons exemples d'adaptation du cadre réglementaire pour rendre les PPP plus robustes et permettre l'émission d'obligations vertes avec l'idée de passer à l'échelle supérieure. Voilà, il y a beaucoup d'instruments qui existent et même au-delà des cadres nationaux, mobiliser aussi les cercles multilatéraux, les organisations multilatérales, de la Banque mondiale jusqu'aux banques régionales de développement, pour aussi être dans des projets de ce type transformationnel.
Monsieur Sokoda, il y a des facteurs impondérables.
Il y a des facteurs impondérables. Ça, c'est ce que certains des facteurs, Madame Yad l'a évoqué. C'est-à-dire il y a une forte influence de la géopolitique internationale. Il y a des risques assez importants qui ne sont pas du tout très souvent maîtrisés par les Africains. C'est-à-dire on peut initier, évoquons le problème de la muraille verte. C'est un projet qui date de 2005 à l'initiative de Obasanjo. Mais qu'on a eu du mal à mettre en œuvre, maintenant il ressurgit. C'est-à-dire, tant que les Africains ne sont pas maîtres de leur agenda, tant qu'ils ne décident pas et que les autres apportent une appui à l'agenda africain, il y aura de plus en plus d'impondérables, il y aura de plus en plus de difficultés. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on commence à travailler sur l'agenda que nous avons nous-mêmes défini en tant qu'Africains, que nous mettons en œuvre avec nos moyens, et bien sûr avec l'appui des autres. Si on reste tout le temps accroché à l'agenda défini par les autres, on aura quelques difficultés. Je pense qu'il y a de bonnes perspectives sur le continent. Il y a un potentiel énorme, immense. On a conscience des problèmes du climat, des problèmes du changement climatique, et jusqu'au niveau des chefs d'État, parce que c'est le seul continent où il y a un comité des chefs d'État sur les questions du changement climatique.
C'est même l'initiative de ce panel organisé par Atlantic Council de faire de la COP 27 la COP Afrique. Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous sur les perspectives économiques en Afrique face à l'impact du changement climatique. Un grand merci à nos invités, Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Merci pour votre contribution.
Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Yuba Sokoda, le vice-président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat GIEC, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité et j'espère que Mme Yad nous aura l'opportunité de nous rencontrer prochainement et puis de continuer cette conversation.
Oui, avec plaisir. Et puis je pense que l'Égypte est déjà en premier point de rendez-vous avec la COP 27.
Le contact est lancé. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs qui avez choisi la voix de l'Amérique et l'Amérique et vous. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Eric Manierakiza au micro. Excellente soirée à vous tous et bon week-end. À la prochaine.